Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission dans Les Indispensables. Thierry Geffretin sera avec nous. Il est allé voir du Marivaux revisité. Et Louise Bernard va nous faire découvrir une exposition qui met à l'honneur les chaussures. Le petit chat est mort. C'est pas Molière qui le dit. C'est Xavier Dumoulin. Lui aussi a fait l'école des fans. Des femmes, pardon. Vous l'entendrez. Quel drôle de lapsus dans Culture Média. C'était normal. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture, journal qui commence par une nouvelle pas très joyeuse, l'état de santé de l'actrice Nathalie Baye. Elle est hospitalisée à Paris.
Transférée en urgence ce week-end par les pompiers, son hospitalisation a été décidée alors qu'elle était en train de passer des examens médicaux. Information confirmée par son agent qui évoque des complications bronchopulmonaires après une grippe. Pas d'arrêt cardiaque, comme cela a pu être écrit. L'actrice de 71 ans va regagner son domicile dans les prochains jours.
On continue avec la disparition d'Ivan Kral, ou Ivan Kral, je ne sais pas comment on prononce exactement, guitariste de Patti Smith.
Guitariste, auteur, producteur, il a joué avec Patti Smith. D'ailleurs, il a écrit la chanson que l'on est en train d'écouter. Mais aussi guitariste d'Iggy Pop ou encore de David Bowie. Il est décédé des suites d'un cancer.
J'adorais ce titre, je l'aime toujours, je parle quoi, je parle à l'imparfait. France Gall, bientôt réédité en vinyle.
Alors, je suis en train de chanter et on allume le micro.
Ouais. Mais vous chantez juste et dans les temps ?
Bah, toujours.
Ouais,
bah,
c'est pas
cette
toujours.
Chanson, on la connaît.
Bah,
non,
et modeste
toujours.
En plus. Ouais. Le melon d'Hélène Manarino.
Elle a pris
la confiance depuis septembre.
Quand il s'agit de France Gall, je chante bien en général. Ouais. Voilà. Alors, France Gall, oui, bientôt réédité en vinyle. Ça sera disponible dès le 21 février. Le label américain de Jack White, Third Man Records, annonce la réédition de 3 albums de la chanteuse. Poupée de cire, poupée de son, Baby Pop et 1968. On va pouvoir chanter avec Céline.
Incroyable, juste un mot, c'est un label américain et pas sa maison de disques française qui réédite France Gall.
Exactement.
C'est dingue, c'est assez rare. Pour être signalé, tout à fait autre chose, la Joconde en Rubik's Cube, mise aux enchères à Paris.
Une œuvre réalisée par l'artiste de rue Invader. Ça s'appelle la Rubik Mona Lisa. Elle sera mise en vente à la fin du mois par Arcurial à plus de 100 000 euros.
Non.
Et oui, cette œuvre a été...
Attends, 100 000 euros, c'est la mise à prix.
Oui, c'est ça.
C'est pas le prix.
Non, c'est pas le prix.
Ouais. Vraiment, c'est vrai que 100 000 euros pour un Rubik Cube, ouais, ça va, c'est bon, c'est Linda Costa.
Mais quand même, je vais vous expliquer, parce
évidemment.
Que c'est pas juste un Rubik Cube.
Mais
cette œuvre a été
évidemment.
Réalisée en 2005 et l'artiste, il a quand même utilisé plus de 330 Rubik's Cube. Alors je rappelle quand même que Invader s'est fait connaître avec ses invasions dans les rues de plus de 65 villes dans 33 pays et la Rubik Mona Lisa est la première pièce d'une longue série revisitant les plus grands tableaux de l'histoire de l'art qu'il a nommé les Rubik Masterpiece.
Voilà.
Je ne sais pas si je le dis en anglais ou en français.
Pieces. Et on ironise, mais il faut bien dire qu'évidemment, c'est une immense œuvre d'art. C'est un très, très grand artiste. On peut voir qu'Invader est passé dans certaines rues de Paris parce qu'on voit même les gens qui ont décroché les tableaux avec la mairie de Paris qui luttent et qui cherchent des moyens de les afficher, de les fixer de plus en plus fort. Tout à fait autre chose, Indiana Jones 5 est en route.
Vous êtes un peu le Indiana Jones de cette émission, Philippe Vandel.
Mais évidemment.
Et oui, alors Indiana Jones, le nouveau prévu pour 2021, ce nouveau film de la saga réalisé par Steven Spielberg est donc encore d'actualité selon la productrice Kathleen Kennedy, patronne de Lucasfilm. Harrison Ford va se glisser de nouveau dans le costume de l'aventurier. Les équipes travaillent toujours sur le scénario. Ils peaufinent pour être prêts à tourner très rapidement. On attend donc Harrison Ford
et puis
en costume d'Indiana Jones.
Et puis c'est un autre genre de super-héros, Booba, qui a tenté une nouvelle approche avec Instagram.
Adieu mon pays, Châtel et Halles, le parvis. Jourdan et A8 à Boulbé. Loire et le temps du silence, c'est pas à n'oublier.
On vous en parlait la semaine dernière, le compte Instagram du duc de Boulogne a été supprimé suite au non-respect des règles. Il avait posté des images assez intimes d'un rappeur. Alors il a tenté de revenir, mais il s'est fait exclure une nouvelle fois. C'est comme une histoire d'amour finalement, on tente, mais ça marche pas. C'est la vraie rupture entre Instagram et Booba.
Ah oui.
Alors il a décidé de faire un retour sur un autre réseau social, le petit oiseau bleu, Twitter. Alors, il l'utilisait assez peu, mais le directeur de la radio Skyrock, Laurent Bounneau, avait tweeté en affirmant « La suppression du compte Instagram de Booba peut faire sourire ». Une phrase qui n'est pas du tout passée, puisque Booba lui a répondu, je cite « Toi, ferme ta gueule, c'est pas le moment. Terrifiant, terrifiant, c'est ta radio qui est terrifiante. Allez, circule. » Booba qui a également tweeté en remettant la photo du rappeur en question, en précisant « Insta, reprenez-moi par pitié, je jure d'être irréprochable. Si ce n'est pas de la provocation, hein, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà. »
Vous ne donnez pas le nom de Fianso. Mais tout le monde sait, c'est sur les réseaux sociaux. Mais on ne sait pas si c'est cette photo. En tout cas, le rappeur qui est en question, dont on dit que la photo est là-bas, c'est Fianso. Et Booba nous aime bien parce qu'il a retweeté la séquence. Nous donnions l'info de son éviction d'Instagram. Merci beaucoup, Hélène Manarino.
Avec grand plaisir.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et ce matin dans Culture Média, on réécoute Xavier Demoulin. Nous le recevions pour parler notamment de son livre « Le petit chat est mort » aux éditions Flammarion.
Bonjour Xavier Demoulin.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, présentateur du 19h45 de M6, également du magazine 66 minutes sur cette même chaîne. Vous venez de sortir votre 7e livre, ça s'appelle « Le petit chat est mort », c'est chez Flammarion. Et au moins je spoil rien parce qu'on apprend la mort de votre petit chat dès la première phrase et dès la troisième phrase, l'enjeu, annoncer la nouvelle à vos filles. C'est pas un roman, il est indiqué sur la couverture « Récit ». Quelle différence vous faites ?
En fait, c'est une différence de quête de vérité. Il y a beaucoup de romans qui sortent aujourd'hui qui sont des récits déguisés.
Ouais.
Et là, c'est un récit donc, inspiré d'une histoire vraie avec des éléments romanesques dedans.
C'est votre vrai petit chat, mais ce n'est pas les vrais noms.
Ce n'est pas les vrais noms et c'est mon vrai petit chat, exactement.
Comme dans vos précédents livres, la famille est au centre de l'histoire. Et pourquoi cette obsession ?
J'en sais rien, mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Dans mes livres, il y a toujours... je parle des liens familiaux. C'est vraiment le point commun de tous les livres
que
j'ai fait.
Parce que le chat, c'est pas un livre pour 30 millions d'amis. Le chat, c'est un catalyseur, un prétexte.
C'est un truchement, exactement. Voilà. C'est un prétexte. De quoi la mort d'un chat est-elle le nom ? Qu'est-ce que ça veut dire que de perdre son chat ? Qu'est-ce que ça cache derrière, quoi ?
Alors d'abord, ce petit chat, il a vraiment existé ?
Il a existé.
Alors c'est même lui qui est en photo sur la jaquette du livre. Je cite, je le montre, si vous nous regardez sur europe1.fr, je crois que c'est la couverture marketing la plus belle. C'est même pas un lolcat, c'est un mignon cat. Il est trop mignon. Il y a écrit « Photo de couverture et portrait auteur, collection Xavier Demoulin ».
Ouais, c'est en fait.
Non, mais au passage, j'ai découvert que vous avez des collections de photos de vous.
Non, ça je sais pas.
C'est ce qu'il y a.
Ça c'est dans les droits. Là, c'est des droits à l'image. Non, c'est le vrai chat. Oui, c'est ma fille m'a posé une question l'autre jour. Elle m'a dit, mais ça va intéresser qui, papa, la mort de notre chat. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper touchant et hyper beau comme question parce que je lui ai dit, ben notre chat c'est une chose, mais c'est pas que sur notre chat. C'est un livre donc sur la famille, sur l'amitié, sur l'amour, sur la perte aussi, et donc sur la mort aussi.
Vous donnez pas le nom du chat ? Pour quelle raison ? Parce qu'il était ridicule ?
Non, pas du tout. Il s'appelait Mino. D'ailleurs, le livre lui est dédié en partie. Il est dédié à trois personnes. Il est dédié à...
Ah, Mino, j'ai cru que c'était un pote à vous.
Ouais, non, parce que c'est.
Le livre est dédié à Jean-Marie, Arnaud et Mino, M-I-N-O. Je me dis, tiens, Mino, il va être content s'il le lit, tiens.
Des hommes et des chats.
Il est mort à quel âge, Mino ?
À un an et demi.
C'est très jeune pour un chat. Embolie pulmonaire, épanchement, de l'eau dans les poumons à cause d'un cœur trop gros, hypertrophie, malformation cardiaque, racontez-vous. Et là, vous faites de l'humour noir. Personne, écrivez-vous, quand il adopte un chat, n'a l'idée de lui offrir un check-up. On ne fait pas d'échographie à un chaton avant de l'embarquer à l'arrière de sa voiture pour le 12e anniversaire de sa fille. On ne le traîne pas chez le cardiologue pour vérifier ses artères, ni chez le pneumologue pour inspecter ses poumons. On vous l'a reproché de ne pas avoir fait ces études ? Vous l'êtes reproché ?
Non, je ne me le suis pas reproché. C'est ce que ça interroge. C'est la perte de quelqu'un de trop jeune, que ce soit un chat, un homme ou quoi que ce soit. C'est comment on gère ce chagrin-là. D'ailleurs, c'est bizarre comme mot, chagrin et pas chien-grin.
Ouais. Parce qu'il y a chat dedans. Procédé narratif, pendant presque tout le livre, vous vous adressez au petit chat. Vous lui dites, avant de te connaître, je ne voulais pas de toi, je n'aimais pas les chats. Donc j'imagine que c'est votre fille qui vous a fait céder. Et vous dites à un moment, vous parlez au chat, vous dites « je me cachais pour t'aimer, mais pourquoi ?» C'est une bonne question, pourquoi vous vous cachiez ?
Mais pourquoi on se cache pour exprimer ses sentiments ?
Eh bien c'est vous le romancier, mais pourquoi vous cachez pour aimer votre chat ?
Mais j'en sais rien, c'est comme ça, c'est une sorte de... Vous savez, c'est l'arrivée dans la famille d'un élément... moi je ne me voulais pas du tout entendre parler des chats, j'aimais pas les chats, j'en avais rien à foutre des chats, je trouvais que ça puait, que ça mettait des poils partout, et que voilà, et ça a transformé ma vie, et donc comme quoi il faut jamais dire jamais quoi, c'est une expérience assez initiatique, l'arrivée de cet animal dans la maison, donc pourquoi je me cachais pour l'aimer, pour répondre à la question,
vous ne savez toujours pas,
mais non, mais parce que parfois on se cache pour exprimer ses sentiments, c'est ça aussi dont parle le livre, et pourquoi on en arrive là, Philippe, j'en sais rien.
Ah, voilà.
C'est ça la pudeur.
L'air de rien, vous parlez beaucoup de vous dans ce livre, en vous adressant à votre chat, vous dites « Tu en connais déjà un rayon sur la vie, que les amours des humains sont bien plus compliqués que les amours des chats. Contrairement à nous, les chats ont une merveilleuse estime d'eux-mêmes, ils s'aiment avant toute chose et n'attendent pas d'un autre de les aimer pour deux, de combler leurs failles, les trous béants de leur passé, les bosses sur les pare-chocs de leurs armes cabossées par bien d'autres avant. » C'est bien écrit. Quand on voit comme ça ce grand gaillard, ce beau gosse à qui la vie sourit, on n'imagine pas que vous ayez un problème d'estime de soi, Xavier Dumoulin. Et je suis très sérieux.
Je sais pas si c'est un problème d'estime
C'est ce que vous écrivez.
De moi, ou si c'est plutôt une quête, l'écriture, ça contrebalance. Vous savez, il faut se méfier des apparences. On peut être, comme vous dites, un gros gars avec une grosse voix.
C'était ma question, justement.
Qui présente tous
vous
les
soirs. Vous êtes tout cabossé de l'intérieur.
Mais non, c'est pas ça.
C'est ce que vous écrivez.
Non, en fait, c'est que à l'intérieur, je m'ouvre enfin. Et c'est une expérience de vie très, très forte que je souhaite à tout le monde, de s'ouvrir enfin.
Vous savez quoi ? On n'a pas fini de vous ouvrir parce qu'il y a Hélène Manarino qui arrive.
Ce matin, on réécoute Xavier Demoulin et dans un instant, on redécouvrira son portrait inattendu dressé par Hélène Manarino sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Xavier Demoulin était l'invité de Culture Média et ce matin, on réécoute avec plaisir son portrait inattendu par Hélène Manarino.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Xavier Demoulin, le petit prince de la famille, c'est comme ça que l'on vous appelait, votre vie est marquée par des créatures extraordinaires, des femmes. Je vous aime. Xavier Demoulin, l'homme qui murmurait à l'oreille des femmes, et quelle femme, votre maman, que vous nommez Maïta, son vrai nom Marie-Hélène, Maïta qui ne loupe pas un seul JT, que vous appelez presque tous les jours et que vous nommez également Agrippine, car vous avez toujours été agrippée à elle. Vos trois filles, Gaïalou, Tosca, Bianca, pour qui vous êtes prête à tout, comme vous mettre en cuisine pour la première fois, c'était il y a quelques jours, pour les 18 ans d'une d'entre elles, vous avez fait un magnifique moelleux au chocolat. Bon, la cuisine, il a fallu la laver au Karcher après, parce que c'est moins votre truc. Mais ce moelleux était très bon. Et pour les 10 ans de votre autre fille, ça sera ce week-end, et vous cuisinerez encore, cette fois, votre sublime porc au caramel. Des filles avec qui vous avez joué à la Barbie en inventant toutes sortes d'histoires, mais des filles pour qui vous êtes prêts aussi à développer votre culture musicale avec cette chanson que vous connaissez presque par cœur. Oh, dja, dja,
y a pas moyen, dja, dja. Vous n'avez pas la même fille ou quoi?
Donc Aya Nakamura qui est aussi une femme de votre vie, mais elle ne fait pas le poids face à elle.
Ça c'est sûr.
Barbara qui vous accompagne aussi et depuis toujours. Alors Xavier Demoulin, tel un chevalier servant, votre passion c'est l'équitation. D'ailleurs tous les week-ends vous vous levez à 4h30 pour aller faire du cheval. Le cheval qui vous a sauvé, on peut le dire, qui vous a aidé dans la coordination lorsque vous étiez plus jeune. Alors on parle de cheval, mais votre animal de prédilection c'est véritablement le sanglier. C'est comme ça que l'on vous appelle chez vous. Alors,
c'est vrai.
Pourquoi? Puisque quand vous rentrez du JT, vous dévastez le frigo. Même si un bon repas est préparé, c'est non, c'est dans le frigo que ça se passe.
Mais qu'elle a parlé.
Alors normal que vous ayez faim, puisque là, le froid, ça donne faim, car une autre femme vous accompagne tous les soirs, c'est la clim. Sur le plateau du JT, il vous faut la clim à 16 degrés, puisque vous avez toujours très chaud. Alors seul homme de la maison, pas du tout manuel, vous détestez faire la vaisselle, mettre la table, mais vous préparez le petit déjeuner pour tout le monde. Alors pour vous, c'est simple, c'est juste la moitié d'une banane. Ensuite, vous faites 2 heures de sport par jour, le matin, quand même.
Ouais. Mmh. Alors, vous l'avez fait aujourd'hui ?
Mmh.
D'accord.
Revenons à nos drôles de dames, celles qui vous ont aidé, vos anges gardiens, votre professeur de français, Odile Fayet, et la mère d'une de vos amies, Madame Pozzo. celles qui vous ont inspiré aussi, comme Gaëtan, candidate de la Nouvelle Star, pour qui vous avez écrit des chansons, et toutes celles que vous avez côtoyées pour enrichir votre recueil de poésie à l'âge de 20 ans. Mais vos femmes, Xavier de Moulin, ce sont vos sœurs, Véro, avec qui vous avez partagé votre chambre enfant, votre chambre moquette orange, lit superposé, jamais sans votre yéyé, c'est-à-dire une taie d'oreiller dont vous mordiez les quatre coins.
Voilà, dans quel état vous êtes, Xavier ?
Mais non, c'est-à-dire
ouais, okay. Je vous ai jamais vu comme ça.
Ah non.
Et puis, je continue.
Ouais, allez-y.
Et puis, il y a aussi votre plus grande sœur qui s'est mariée lorsque vous aviez 6 ans. Petit prince de la famille, c'était très compliqué pour vous de voir l'une de vos princesses partir pour vivre avec son prince charmant. Alors, le jour de son mariage, vous lui avez dit, vous avez dit, si ma sœur ne vient pas m'embrasser, je tomberai malade. Votre sœur n'est pas venue, elle avait autre chose à faire le jour de son mariage. Et vous êtes tombée malade.
Ok. Carrément. Wow.
Alors vous êtes toujours resté le petit septième, le petit dernier, le moulin à paroles qui ne s'arrêtait jamais, rempli de rêves, d'envie et surtout d'amour.
Elle court, la maladie d'amour.
Comment ne pas passer du Michel Sardou ? Vous êtes fan, et oui, votre idole, cette maladie d'amour, la plus belle maladie, celle de la famille, fidèle, attentionnée, nous sept ou rien. Xavier de Moulin, le zic pâteux de la famille, petit autre surnom, zic pâteux, car vous étiez terriblement maladroit. Vous glissiez sur toutes les bouses de vache à la ferme, vous déchiriez vos blousons systématiquement dans les barbelés, vous avez enchaîné les chutes, notamment au ski, au carreau d'arrache, à l'âge de 7 ans, tibia et péroné cassés. Alors heureusement que les femmes étaient là pour vous sauver, comme ce jour où vous avez failli vous noyer, parce que vous détestez l'eau. La noyade est arrivée plusieurs fois et vous avez été sauvée par votre femme que vous avez emmenée en surprise à Las Vegas pour vous marier face à Elvis Presley.
Xavier de Moulin a posé ses lunettes.
Ce que vous répétez tout le temps, la vie, ce n'est pas du sucre. Et en effet, la vôtre est bien solide. Alors on dit souvent, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Eh bien, vos proches l'attestent. Derrière toutes ces grandes femmes, il se cache aussi un grand homme.
Xavier, c'est pas facile.
Faut enchaîner après derrière. Donc,
bien
ça.
Bien sûr,
mais
bien sûr.
Merci. J'ai fini. Déjà, mais je suis bouleversé par ce que vous venez de dire, par la chute, et bouleversé par le comment vous avez remonté ce fil. Je sais pas à qui vous avez parlé, mais je vais le savoir. Mais merci beaucoup en tout cas, parce que je vas-y Philippe, enchaîne, parce que moi je peux pas enchaîner après ça.
On se connaît depuis très très longtemps, c'est la première fois que je vous vois sans voix. Vous restez avec nous, vous remettez vos lunettes et on repart.
Dans un instant, c'est l'heure de nos indispensables du jour. On parlera d'une expo au Musée des Arts Décoratifs avec Louise Bernard et d'une comédie au Grand Point Virgule avec Thierry Geffretin. Alors on reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure de nos indispensables du jour. Nous ont rejoint Thierry Geffretin qui va nous parler d'une comédie presque française au Grand Point Virgule et Louise Bernard qui, elle, nous parle d'une exposition, Philippe.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe.
Vous êtes venu à pied ?
Oui, avec mes chaussures.
Car votre indispensable du jour, c'est une expo au Musée des Arts Décoratifs à Paris qui s'appelle Marche et Démarche, et elle met à l'honneur les chaussures.
On comprend mieux votre question un peu bizarre. Mais...
Bah évidemment, mais on comprend toujours à la fin.
Et des chaussures, il y en a des centaines d'exposés. Hein. Chaussures d'enfants, à talons, de sport, militaires, à bout pointu ou rond, chaussures d'objets de fantasmes, ou bien même des chaussures magiques, hein, comme les bottes de cet lieu. Alors on est amusé par certaines paires, bouche bée devant d'autres. Aucune ne laisse indifférent. Et puis il y a la dernière partie de l'exposition qui est consacrée à des chaussures importables, des œuvres d'art en réalité absolument fascinantes. Mais au-delà de l'aspect esthétique qui est déjà intéressant, hein, en fait c'est une exposition qui parle d'histoire avec un grand H et c'est là que ça devient vraiment passionnant. La chaussure, elle a évolué, elle a changé en même temps que notre société. Donc quand on étudie les chaussures, en fait, on en apprend en réalité beaucoup sur l'époque, sur comment on marchait au Moyen-Âge ou à Versailles ou aujourd'hui. Donc l'exposition, elle regorge d'anecdotes.
Par exemple,
Vous apprendrez que les chaussures des aristocrates du 16e au 19e siècle n'étaient pas faites pour marcher.
Non.
Si, trop fragiles, mais parce qu'en fait, ils ne marchaient pas. Les chaussures étaient des objets d'apparat et surtout une manière de montrer son statut social. Écoutez les explications du commissaire de l'exposition, Denis Brunin.
On choisissait des chaussures très hautes, très inconfortables, très étroites, pour montrer qu'avec ces chaussures, on ne pouvait que difficilement marcher, puisque ces classes sociales marchaient peu. Et plus on avait une démarche instable, plus on avait une démarche boitillante, incertaine, on révélait ainsi aux yeux de tous son haut niveau social.
Vous pourrez aussi voir une paire de chaussures de Venise avec des talons de
55 cm.
Non. 55, hein, mais c'est des échasses.
C'est énorme, c'est
55,
ça.
55, on ne tient, oui, en fait, tient pas tout seul.
Voilà, donc la femme qui portait ça, elle ne pouvait pas se déplacer toute seule. Elle devait avoir des domestiques, donc de chaque côté pour la tenir.
C'est génial.
Ça la protégeait de la boue et ça montrait encore une fois sa supériorité sociale. On apprend aussi qu'à Versailles, les femmes marchaient sur la pointe des pieds. Donc quand vous voyez des films d'époque où la cour se promène tranquillement dans la galerie des glaces, en fait c'est un anachronisme, c'est faux.
Ouais.
Donc, puisque j'évoque Versailles, parlons du point de départ de cette exposition quand même. C'est une chaussure qui est à l'origine de l'exposition. Elle a appartenu à Marie-Antoinette. Elle a été trouvée dans les collections du musée d'art décoratif par le commissaire Denis Brunat. Il s'agit en fait d'un escarpin noir, on dirait une chaussure pour enfant tellement elle est petite. Elle fait 5 cm de large et 21 cm de long seulement. Vous voyez, c'est l'espace entre votre pouce et et le petit doigt seulement. C'est l'équivalent d'une pointure 33 aujourd'hui.
Ah oui.
Or, la reine, elle les portait à 37 ans.
Elle était toute petite ou elle avait des tout petits pieds ?
Non, elle faisait 1m63. Donc pour l'époque, c'était plutôt bien. Donc le commissaire de l'exposition, justement comme vous, il s'est demandé mais comment c'était possible d'avoir une si petite pointure. Et il a découvert que c'était dû à une pratique venue de Chine. Se bander les pieds, c'est le culte du petit pied et qui a aussi donc existé en France. Explication.
Les femmes, exclusivement les femmes, et dès leur plus jeune âge, vers l'âge de 5 ans ou 6 ans, dans des fillettes, on leur bandait les pieds, à savoir qu'on retroussait, on repliait les orteils sous la plante des pieds, parfois on cassait même les os du métatarse pour accentuer la fracture et la courbure, pour en faire des petits pieds, parce que c'était un véritable culte, à la fois c'était un signe de haute extraction sociale. C'était également pour la famille de la fillette l'espoir de faire un beau mariage. Et pour les maris, c'était aussi un objet de désir, un objet érotique.
Bon, sauf que ça ressemble à de la torture. Hein. Il y a des photos qui sont même dures à regarder. Évidemment, c'était réservé aux femmes. Finalement, la chaussure a évolué. Les nobles se sont mis à marcher. Ils adorent la balade. Donc, à partir de la moitié du 19e siècle, les souliers deviennent plus solides. On différencie aussi enfin la chaussure droite et la chaussure gauche.
Vous savez grâce à qui ? Grâce au docteur Godillot.
Exactement.
Qui a donné le nom les Godillots.
Voilà,
c'est le mec qui a eu l'idée de séparer les deux chaussures alors que ça, des deux pieds alors que ça semble tellement une évidence.
Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'exposition, vous connaissez
déjà. Je connais juste ça. Tout ce que vous avez raconté avant, je l'ignorais, c'est passionnant. Continuez.
Et là, je vous ai parlé donc de quelques anecdotes seulement, surtout de notre société, mais l'exposition, elle aborde beaucoup d'autres cultures vraiment passionnantes. Pour finir, je vous ai sélectionné deux paires assez intrigantes. Je vous ai amené des photos. Il y a une paire un peu d'ours et une autre de cheval. Alors, je voulais demander à Pierre Malmade de choisir une des deux, mais comme il n'est pas là, Thierry,
il est chez lui en pantoufles, il est en train de se réveiller.
Mais il a quand même le droit à avoir
les chaussons façon ours ont un côté charentaise assez séduisant.
Voilà, et ben on peut écouter.
J'ai peu marché avec des talons aussi hauts qu'un sabot de cheval.
Et ben laquelle vous préférez? On écoute.
Je préfère la charentaise façon ours.
Oh là là. Et ben voilà.
Moi aussi, j'adore, c'est trop beau.
Le commissaire de l'exposition vous explique ce que c'est.
Ça, c'est une paire de chefs d'Indiens d'Amérique du Nord, paire fascinante. En tout cas, c'est peut-être l'une des paires qu'il a plus photographiée et qu'il a plus diffusée sur les réseaux sociaux. C'est une paire de chaussures fascinante puisqu'elle a été aménagée dans deux pattes d'ours. On voit les poils de l'animal, on voit les griffes. On pense à la fois que ce chef indien les portait pour pouvoir bénéficier en les chaussant de toute la force de l'animal. Mais aussi, vraisemblablement, c'est une hypothèse pour tromper un peu son ennemi parce qu'en marchant, il n'allait pas laisser les traces de ses pieds ou les traces de chaussures, mais il a laissé les traces de pattes d'ours.
Voilà, donc Thierry Geffrotin, si vous voulez toute la force de l'animal, vous pouvez mettre ce genre de chaussures. En attendant, vous pouvez aller les voir. C'est à l'exposition Marche et Démarche. C'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris. C'est absolument génial et c'est jusqu'au 22 mars.
Et merci beaucoup, Louise Bernard, qui vient d'inventer la première chronique interactive. Parce que si on avait répondu les chaussures de cheval, elle avait également le son. Merci,
ouais.
Bravo.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On continue à faire le tour de nos indispensables du jour, Philippe, avec Thierry Geffrotin.
Bonjour Thierry.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler de théâtre avec vous, on connaît tous au moins de nom Le jeu de l'amour et du hasard, la pièce de Marivaux. Avec vous, on va découvrir Les feux de l'amour et du hasard de presque Marivaux.
Ah oui, la nuance est importante, hein. Cette comédie un peu folle, je dirais même totalement déjantée, est jouée par la comédie presque française. Hein. Alors, elle est à l'affiche du Grand Point Virgule, Les feux de l'amour et du hasard. Évidemment, vous connaissez les feux de l'amour.
Bah, la double référence, oui, bien sûr.
Voilà, la double référence, d'une part à Marivaux, d'autre part au feuilleton, au soap opéra, aux telenovelas. Et c'est un mélange des deux. Donc le texte, je dois le dire, est bien de Marivaux, mais Mais la manière de jouer nous rappelle donc les soap-opéras américains. Écoutez plutôt le résultat.
Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi.
Toi.
C'est drôle.
Ah oui,
toi. C'est comme ça. Mais le texte, c'est vraiment Marivaux.
Ah oui, à la virgule près. Alors, ils ont un peu réduit.
Ils ont changé les prénoms.
Ils ont changé les prénoms, on verra
ils
ça.
S'appellent... J'anticipe. Alors, allez-y,
Thierry. Vous anticipez un peu. Mais je voudrais qu'on s'attache un peu à la langue du 18e qui sonne d'une certaine manière plus contemporaine et pour tout dire assez moderne. Écoutez, Béatrice Delaboulet, c'est l'une des comédiennes qu'on vient d'entendre d'ailleurs de la troupe de la comédie presque française qui nous en dit plus sur cette manière de dire Marivaux.
Ce qui est amusant, c'est de faire sonner la langue. C'est-à-dire que la langue de Marivaux, qui est un peu empoulée, quand on la parle avec la sensation d'une voix de doublage un peu comme ça, ça la fait sonner autrement et on se rend compte que ces textes classiques sont en fait hyper contemporains.
Quoi ? Vous m'épouserez malgré ce que vous êtes, malgré la colère d'un père, malgré... votre fortune.
Non mais j'adore, mais une fois qu'on a compris le principe, passer la surprise, on s'ennuie pas, on s'amuse vraiment.
Non, c'est vraiment très drôle, on rit de bout en bout, d'autant que les feux de l'amour et du hasard se passent dans un ranch chez la famille Flanagan, tout y est, les costumes très ringards, les décors kitsch, la musique, la musique est géniale, on retrouve vraiment les feux de l'amour, les prénoms qui ont changé, évidemment, ben j'y viens, oubliez, parce que ça c'est un grand moment, oubliez Sylvia, Dorante, Harlequin, Lisette, vous allez donc suivre les aventures de Victoria, Brandon, Dick et...
Kimberly, que je souffre.
Vraiment?
Non, c'est dans okay. La tête.
Si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus que faire ensemble.
Laisse-moi du moins le plaisir de te voir.
Les feux de l'amour et du hasard, c'est donc du Marivaux. Et c'est aussi un feuilleton façon Dallas parce qu'on assiste tout au long du spectacle au tournage d'un épisode, le 4731e épisode de la 18e saison. Et entre les prises, alors c'est plus du Marivaux, je dois vous le dire. Hein, les acteurs passent des coups de téléphone, font des photos, boivent du whisky. Y en a un, il finit totalement sous. Mais c'est toujours aussi drôle. Vraiment, allez-y.
Hein. Ça donne vraiment, vraiment envie. Merci beaucoup, Brandon Geffrotin.
La suite en culture média, ce sera avec Xavier Demoulin qu'on va réécouter avec plaisir sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Le 22 janvier, nous recevions Xavier Demoulin. Il vient de publier son livre, Le Petit Chat est mort chez Flammarion. L'écrivain et journaliste nous raconte comment il a annoncé à ses filles la mort du petit chat ainsi que l'émoi provoqué par la nouvelle.
Vous écrivez, Xavier Demoulin, quand un homme reproche à son entourage les prisons dans lesquelles il s'enferme tout seul, il préfère mourir que de reconnaître qu'il se trompe et il en veut à la terre entière. Vous en voulez à la terre entière ?
Non, j'en veux à personne.
Ah bon,
j'en
vous
veux plus
ça,
à personne. J'en ai voulu à la terre entière.
C'est
mais
vrai.
Mon chemin m'a amené vers cette paix qui fait qu'aujourd'hui j'en veux plus à personne. C'est ça aussi le chemin du chat.
Ouais.
C'est de passer d'un état de négativité à un état positif.
Mais avant le chat. Vous vous enfermiez dans des prisons que vous fermiez tout seul ?
Comme tout le monde, comme nous tous.
Bah
j'ai pu dans mon histoire m'enfermer dans des prisons tout seul en voulant la terre entière. Et aujourd'hui, j'ai compris que finalement, la seule personne avec qui j'avais besoin d'être en paix, c'était moi-même. L'écriture, ça sert aussi à ça.
Ouais.
Et j'espère que ce livre-là aidera aussi certaines personnes à... Vous savez, c'est un hymne à la vie, ce livre. C'est la question que pose ce livre, c'est ce qu'on peut faire de la mort un hymne à la vie. Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, j'ai envie d'envoyer ce genre de message. La littérature, pour moi aujourd'hui, ça doit être synonyme d'espérance et d'optimisme. At the end, à la fin.
Votre conclusion justement, parce que vous parlez de la fin, votre conclusion vers la fin du livre, c'est une forme de résolution. Vous dites, ma place parmi les vivants est désormais d'être un peu plus chat moi-même.
Exactement, ouais. Les hommes chats. C'est ceux qui comprennent ça, en fait, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ceux qui acceptent d'ouvrir simplement leur cœur, d'aller vers leur vérité et d'arrêter de reprocher.
Non, mais le chat, attendez, là vous faites de l'anthropomorphisme.
Un peu, ouais.
Ouais, parce que le chat, il laisse pas parler son cœur. Le chat, il en fait qu'à sa tête et il s'en fout.
Mais bien sûr que c'est de l'anthropomorphisme. Mais je vous ai dit.
Non, il n'y a pas plus. Moi, j'adore les chats, non, mais il n'y a pas plus égoïste qu'un chat.
S'il y a
quelqu'un qui ne s'ouvre pas sur cette terre, c'est bien le chat.
Mais
qui a rien à foutre
évidemment,
de rien.
Là, on parle de la mort du chat et de ce, ouais. ce truchement là,
ouais.
Parce que je vous l'ai dit, c'est un livre aussi sur la famille, sur les amis, sur l'amitié, sur l'amour, sur la vie, sur ces choses de la vie. Et le chat et le truchement.
Un mot du style, vous revenez à la ligne après chaque phrase. Je me suis dit, pour quelle raison ? Vous avez remarqué ça ou pas ?
J'ai remarqué ça, ça s'est imposé naturellement. Je pense que on parle trop, ça va trop vite aujourd'hui, donc c'est bien d'aller à la ligne pour faire un peu silence.
Ah ouais.
Peut-être aussi.
Parce que j'avais repéré ça chez quelqu'un qui est très 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 bavard et qui on peut surtout pas vous comparer, c'est Max Gallo.
Ah ouais. Max Diallo fait une phrase à la ligne, une phrase à la ligne. Même il saute un paragraphe à chaque fois. Mais il faisait des phrases d'un paragraphe quasiment.
Je sais pas pour Max Diallo, mais je pense que chez moi, c'est pour. C'est pour respirer entre chaque phrase, pour que le lecteur puisse respirer entre chaque phrase, quoi.
Au détour d'une phrase, vous dites « À mon temps gagné, je suis écrivain. » Et en quatrième de coup, vous êtes présenté ainsi, quatrième de coup, c'est-à-dire quatrième de couverture, « Xavier Demoulin est écrivain et journaliste. » Et j'imaginais pas les choses dans cet ordre. Vous mettez pas journaliste d'abord?
Alors ça, c'est pas moi, c'est l'éditeur. Qui,
oui, mais on valide.
Oui, moi j'ai vu ça. Non, bah, en fait, pour moi, non. Je suis d'abord écrivain. J'écris depuis toujours, en fait.
C'est pas vrai. Vous êtes un écrivain qui présente les journaux.
Je suis journaliste et écrivain. Alors on dit journaliste et écrivain, mais écrivain ou journaliste, finalement, qu'est-ce que je
veux dire? Comment vous ressentez
la vérité? Ma vérité à moi, c'est qu'aujourd'hui, je suis écrivain et journaliste. Oui, voilà. J'écris depuis tout petit, depuis que j'ai 14 ans. Je vous l'avais dit tout à l'heure, j'écris mon premier livre à l'âge de 20 ans, et je travaillais pas encore comme journaliste.
Tous les jours, matin, midi et soir.
Pas d'adorer mon métier.
Vous le faites toujours? Vous écrivez tous les jours?
J'écris tous les jours, oui.
Vous avez
parfois je fais
ce matin aussi. Ce matin aussi.
Parfois, je fais silence.
Ce matin aussi.
Non, ce matin, non.
Bon, parce que j'ai déjà demandé,
peut-être
vous
ce
m'avez
soir.
Dit que vous avez déjà fait deux
peut-être
heures de sport.
Soir.
Alors, si vous avez deux
mais
heures d'écriture...
Il n'y a pas de temps de... C'est dommage, d'ailleurs, mais parfois, ça peut être un peu le matin, ça peut être le soir, ça peut être...
Quatre romans chez La Thèse, vous avez changé d'éditeur, vous êtes chez Flammarion, prestigieuse maison également. Pourquoi vous avez changé?
C'est une très bonne question.
Mettez pas votre main dans
j'ai
votre
bouche. J'ai fait mes deux premiers romans
au Diable Vauvert.
Au Diable Vauvert.
Qui est une petite maison d'édition qui prend des risques,
puis,
qui est Nicolas Rey.
Puis chez La Thèse. Et en fait, ce livre-là, je l'ai changé parce que, en fait, c'est un livre qui s'est révélé avec un échange de regards avec mon éditeur Guillaume Robert, que je salue et que j'embrasse. J'étais avec lui à la terrasse d'un café et j'ai vu passer, on a discuté, j'ai vu passer, je sais pas, le chat, quoi. Je lui ai dit, le petit chat est mort, on s'est regardé, c'est devenu évident que ça allait devenir un livre. Et en fait, moi, j'essaie d'être un homme de parole.
Ouais.
Et on s'est dit ça, et je pouvais pas le faire avec quelqu'un d'autre qu'avec Flammarion, en fait.
Et on termine, Philippe, par une triste nouvelle.
Oui, on l'a appris cette nuit. Le directeur d'Orange Contact, David Kessler, est décédé à 60 ans à son domicile parisien. La cause du décès n'a pas été précisée. Il dirigeait depuis 2014 Orange Studio et OCS. Auparavant, 2012-2014, il avait occupé le poste de conseiller culture du président auprès du président François Mitterrand. François Hollande, pardonnez-moi, je suis un petit peu ému. Il avait dirigé le CNC, le Centre National du Cinéma. Il avait également pris la tête du magazine Les Inrecuptibles de 2011 à 2012. Et il avait été également directeur de France Culture de 2005 à 2008. David Kessler, donc, on pense évidemment à ses amis, à sa famille, notamment à son frère Emmanuel Kessler, le président de Public Sénat, que nous saluons. Culture Média, ça revient demain à 9h avec Élodie Gossuin pour l'émission Familles Extraordinaires sur Sister et Richard Anconina pour la fiction Un Mauvais Garçon sur France 2. Merci d'avoir été avec nous. Salut Céline Dacosta, je vous dis à demain.